Depuis Jakarta, voici La Voix de l'Indonésie. Diffusion en français, La Voix de l'Indonésie présente des actualités, des informations et des divertissements divers sur l'Indonésie. Et c'est ici que vous pourrez accéder à nos émissions tous les jours sur SW3325 et 4755 kHz ou via le site web www.voinews.id et l'application RRI numérique. La voix de l'Indonésie, de l'Indonésie au monde.
Chers auditeurs, auditeurs, bonsoir. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le coin diplomatique et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, les magazines culturels, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers auditeurs et auditeurs, bonsoir. Voici la voix de l'Indonésie présente le journal d'aujourd'hui avec Maudry. Il y a quelques événements à informer entre autres. Relations entre l'Indonésie et le Canada ont résisté à l'épreuve du temps et se sont considérablement développées. Est-ce qu'Akamigas rappelle aux fournisseurs locaux de prêter attention à la qualité des produits pour TKDN? Vice-président s'est rendu à Surabaya pour assister à l'ouverture d'Asie-Pacifique Aquaculture. Consul général d'Indonésie établit une collaboration entre le Cap et Java oriental dans les arts, la culture et l'investissement. Kabar rassemble les parties prenantes pour réduire les dangers du tabac grâce à la PHRF. Indonésie a des opportunités dans le développement d'une économie verte et Indonésie-Australie renforce leur coopération sur la transition énergétique et l'économie verte. Bon, chers auditeurs, voici les nouvelles en complet. Le ministre indonésien des Affaires agraires et de l'aménagement du territoire, Agus Harimurti Yudhoyono, a évoqué la relation entre l'Indonésie et le Canada au cours des 7 dernières décennies. Il a déclaré que les relations entre les deux pays n'ont pas seulement résisté à l'épreuve du temps, mais se sont également développées et ont contribué à la paix et au développement mondial. Cela a été transmis par Agus Harimurti Yudhoyono dans son discours lors de la célébration de la fête du Canada organisée par l'ambassade du Canada à Jakarta à l'hôtel Fairmont de Jakarta mercredi 3 juillet. Agus a dit:
Over the past seven decades, Indonesia and Canada have enjoyed a steadfast and enduring partnership.
Au cours des 7 dernières décennies, l'Indonésie et le Canada ont constitué un partenariat solide et durable fondé sur la confiance mutuelle, les valeurs communes et les aspirations communes, malgré nos différences géographiques. Notre engagement à promouvoir la paix, la stabilité et la prospérité ne connaît aucune limite. Nos relations diplomatiques n'ont pas seulement résisté à l'épreuve du temps, mais ont également prospéré de manière significative, contribuant à l'investissement dans la paix et le développement mondial. Agus a poursuivi, les relations entre l'Indonésie et le Canada peuvent également être vues à travers les réalisations de la coopération dans divers aspects ainsi que dans les relations entre les dirigeants des deux pays à diverses occasions, tels que les sommets du G20 et de l'ASEAN. Il a ajouté que cette année, l'Indonésie souhaite conclure immédiatement l'accord de partenariat économique global entre l'Indonésie et le Canada afin d'encourager le commerce et les investissements des deux pays. Agus est convaincu que le partenariat entre les deux pays continuera à se développer, porté par des valeurs et des aspirations partagées. Le chef du groupe de travail spécial pour les activités commerciales pétrolières et gazières en amont, SKKMIGAS, Dwi Sucipto, a rappelé aux fournisseurs nationaux de prêter attention à la qualité des produits afin de garantir le respect du niveau de composants nationaux TKDN, citant Antara Dwi Sucipto lors d'une conférence de presse après l'ouverture du sommet pré-IOGSCM et NCB à Batam dans les îles Riau, mercredi, a demandé aux fournisseurs de prêter attention à leur capacité de production. Il a donné un exemple: si un fournisseur n'est capable de fabriquer que 200 à 400 produits, il n'entreprend pas de projet dépassant cette capacité de production. En dehors de cela, Dwi a également conseillé aux vendeurs locaux d'être plus enthousiastes dans la production, notamment pour améliorer les capacités de leurs ressources humaines. Il a demandé aux vendeurs nationaux d'imiter l'esprit des ouvriers d'usines chinois. Les importations ne concernent que le premier produit qui est ensuite démonté pour apprendre à le fabriquer soi-même. Lui estime que les vendeurs nationaux ont un grand potentiel pour devenir maîtres dans leur propre pays. Le vice-président de la République d'Indonésie, Ma'ruf Amin, devrait assister à l'ouverture de l'événement des cultures halieutiques pour les pays de l'Asie-Pacifique, Asia Pacific Aquaculture 2024, qui se tiendra jeudi à Surabaya, Java Oriental, 4 juillet. Vendredi, le vice-président et le ministre des Affaires maritimes et de la pêche, Shakti Wahyu Trangono, devrait assister à l'ouverture de l'aquaculture Asie-Pacifique APA 2024 au Grand City Convention and Exhibition Hall, Surabaya. Pendant ce temps, l'Indonésie a de nouveau été choisie pour accueillir APA 2024 parce que l'Indonésie est l'un des plus grands producteurs de produits de la pêche, en particulier de l'aquaculture, afin que l'Indonésie puisse devenir un pays qui suscite l'intérêt des investisseurs dans le secteur de la pêche, notamment étrangers. À une occasion précédente, l'organisateur de l'APA, Iwan Sutanto, a déclaré que l'APA 2024 était la plus grande exposition et conférence internationale sur l'aquaculture en Indonésie. L'Indonésie a également organisé avec succès l'APA en 2016, Aquaculture Asie-Pacifique APA 2024, est organisé par la Société mondiale de l'aquaculture sur le thème « Aquaculture moteur de l'économie bleue ». APA présente divers exposants et conférenciers locaux et internationaux pour présenter les dernières informations et technologies liées au développement de l'industrie aquacole. Le consulat général de la République d'Indonésie au Cap en Afrique du Sud et le gouvernement provincial de Java Oriental collaborent dans divers domaines allant des arts et de la culture à l'investissement. Le consul général indonésien au Cap, Tudiono, a déclaré mercredi dans une déclaration à Surabaya, dans Java orientale que le Cap entretenait des relations uniques et spéciales avec l'Indonésie depuis des siècles. Avec cette relation, le consul général indonésien considère qu'il est important de renforcer les relations avec l'Indonésie, notamment à travers les coopérations entre les provinceurs, à savoir des installations qui peuvent être un instrument de renforcement des relations telles que des équipements artistiques et culture. Le gouverneur par intérim de Java Oriental, Adi Karyono, enverra également des instruments de musique locaux tels que le gamelan au consulat général d'Indonésie au Cap pour la promotion des arts et de la culture ainsi qu'un moyen de formation au gamelan pour les citoyens indonésiens et la communauté locale. En fait, le gouvernement provincial de Java Oriental fera également venir des professeurs d'instruments de musique traditionnelle directement d'Indonésie et enverra des représentants au marché folklorique indonésien, IFM. Le 9 novembre 2024 et au Festival du film indonésien IFF, les 10 et 11 novembre qui se tiendra au Consulat général d'Indonésie, au Cap. La coalition indonésienne Sanggudrong-Kabar met en synergie diverses parties prenantes en Indonésie pour réduire les dangers du tabagisme à travers le Forum Asie-Pacifique sur la réduction des risques, APHRF 2024. Le président de Kabar, Aryo Bimo, lors de l'événement à Jakarta mercredi, a déclaré que le problème du tabagisme est devenu un défi de santé mondiale sérieux en Asie-Pacifique. L'impact est très important tant en termes de santé publique que socio-économique. Cependant, parmi ces défis, il existe également de grandes opportunités de créer des changements positifs significatifs. L'opportunité de réduire les problèmes causés par le tabagisme peut être concrétisée grâce aux efforts et au soutien des parties prenantes pour se concentrer sur des approches de réduction des méfaits basées sur des preuves scientifiques et l'innovation. En se concentrant sur cette approche, selon Aryo, les pays de la région Asie-Pacifique, en particulier l'Indonésie, peuvent réduire les impacts négatifs du problème du tabagisme tout en donnant aux fumeurs adultes la possibilité de passer à des produits du tabac alternatifs ou d'arrêter complètement sur la base des données de l'enquête indonésienne sur la santé SKI de 2023. Le nombre de fumeurs actifs en Indonésie a atteint 70 millions de personnes. En tant qu'organisation qui soutient les efforts de réduction des risques en Indonésie, Aryo est optimiste quant au fait que la collaboration de Kabar avec les parties prenantes concernées pourra réaliser des progrès significatifs dans la réduction de la prévalence du tabagisme. Le ministre indonésien de coordination des affaires économiques, Erlangga Hartanto, a déclaré que l'Indonésie disposait de deux opportunités pour développer une économie verte. Erlangga à la Green Economy Expo 2024 à Jakarta mercredi a déclaré que l'économie indonésienne s'est transformée en une économie verte durable, équilibrant les aspects économiques, sociaux et environnementaux. Conformément aux objectifs des ODD, à l'accord de Paris et à la vision Golden Indonesia 2045 et l'objectif de zéro émission net NZE 2060. Première opportunité, l'activité économique de l'Indonésie dans le secteur de l'énergie est actuellement axée sur la transition vers les nouvelles énergies renouvelables, EBT. Ensuite, la deuxième opportunité de l'Indonésie est la naissance d'une nouvelle croissance économique à partir de diverses activités économiques circulaires, notamment des industries basées sur les ressources naturelles biologiques durables, SDA, jusqu'à l'économie bleue. Erlangga a déclaré que le développement de 22 zones économiques spéciales KEK était également un effort visant à développer des principes d'économie circulaire susceptibles de générer des investissements verts. Il a ajouté que l'impact de l'innovation économique verte peut également être ressenti par les micro, petites et moyennes entreprises MPME, dont actuellement 22,5 millions sont numérisés. Le secrétaire du ministère de coordination des affaires économiques, Susi Wijono Mugiarso, représentant l'Indonésie, a rencontré le secrétaire du ministère australien du changement climatique, de l'énergie, de l'environnement et de l'eau, David Frederick, pour discuter du renforcement de la coopération en matière de transition énergétique et d'économie verte. Susi Wijono, dans sa déclaration à Jakarta mercredi, a expliqué que cette réunion faisait partie d'une série de visites du secrétaire Fredericks en Indonésie pour approfondir la compréhension de la coopération qui pourrait être menée entre l'Australie et l'Indonésie dans le domaine de la transition énergétique. En outre, cette réunion vise à recueillir les points de vue des parties prenantes indonésiennes, dont le ministère de coordination de l'économie concernant une coopération plus étroite dans les secteurs de l'industrie et de l'énergie respectueuse de l'environnement, ainsi que les priorités d'investissement entre les deux pays. Selon Frédéric, l'Indonésie et l'Australie peuvent collaborer plus étroitement pour répondre aux besoins des pays tiers de la région en développement des secteurs industriels énergétiques respectueux de l'environnement et des priorités d'investissement. En outre, Frédéric a également évoqué la collaboration potentielle qui pourrait être menée à l'avenir par le gouvernement australien pour soutenir le gouvernement indonésien dans le cadre du partenariat pour le climat, les énergies renouvelables et les infrastructures kinétiques dans ses efforts vers une énergie propre. Bon, chers auditeurs, c'est tout, les nouvelles d'aujourd'hui.
Oh, Ces auditeurs, voici l'accueil diplomatique ayant pour le titre « L'INA et l'Australie conviennent d'accroître leur coopération en matière d'investissement ». L'autorité indonésienne des investissements, INA, et l'ambassade d'Australie ont signé un protocole d'accord pour accroître la coopération australienne en matière d'investissement en Indonésie. Le chef de conseil d'administration de l'INA, Rida Wirakusuma, a déclaré dans un communiqué à Jakarta le 2 juillet que ce protocole d'accord était une étape importante pour attirer et accroître les investissements australiens en Indonésie. Ce partenariat devrait encourager d'importants investissements australiens dans des secteurs importants qui soutiennent la croissance et le développement de l'Indonésie. Le protocole d'accord a été signé par Rida Wirakusuma et l'ambassadrice d'Australie en Indonésie, Penny Williams, PSM. Ce partenariat fait suite au programme d'Investi, la stratégie économique de l'Australie pour l'Asie du Sud-Est jusqu'en 2040, annoncé par le premier ministre australien Anthony Albanese à Jakarta en septembre 2023. Rida également expliqué que le programme vise à accroître les investissements australiens en Indonésie, notamment par le biais de la nouvelle équipe d'investissement de l'ambassade australienne à Jakarta. L'équipe d'investissement de l'ambassade d'Australie à Jakarta combine les services du secteur privé, du gouvernement et du financement pour soutenir les investissements de l'Australie vers l'Indonésie. L'équipe travaillera avec l'INA pour identifier les actifs et les structures appropriées en veillant à ce que l'opportunité soit prête à accueillir les investisseurs australiens. L'ambassadrice Penny Williams a déclaré que son pays continue de renforcer sa coopération économique stratégique avec l'Indonésie, qui est l'un des principaux partenaires de l'Australie. L'équipe des accords d'investissement de l'ambassade d'Australie à Jakarta travaillera avec l'INA pour relier les projets indonésiens aux investisseurs australiens afin de créer des opportunités d'affaires et d'emploi pour les deux pays. C'est Rita, c'était l'accueil diplomatique pour ce soir. C'est Rita, bonsoir. Voici l'histoire d'aujourd'hui qui s'agit d'événements importants. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 4 juillet 1927, le PNI était fondé. Le Parti National Indonésien, PNI, était fondé le 4 juillet 1927 à Bandung par les figures nationales comme Cipto Mangunkusumo, Sartono, Iskak Chokro Hadisuryo et Sunario. Ce parti détient l'idéologie du nationalisme et diffuse les enseignements du mouvement indépendantiste. Le gouvernement néerlandais des Antilles orientales était préoccupé par l'idéologie nationaliste du PNI, qui était influente et extrême. Enfin, le gouvernement néerlandais des Antilles orientales a émis un mandat d'arrêt contre des personnalités du PNI à Yogyakarta le 24 décembre 1929. Des arrestations viennent d'avoir eu lieu le 29 décembre 1929. Les personnalités arrêtées comprenaient Soekarno, Gatot Mangkoepradja, Supriyadinata et Maskun Sumadiraja. Ensuite, les personnes ont été jugées et incarcérées à la prison de Sukamiskin à Bandung. Passons maintenant à l'événement du 4 juillet 1943, bataille de Kursk. La seconde guerre mondiale entre l'Allemagne et l'Union soviétique a commencé le 4 juillet 1943 sur le front oriental près de Kursk. La guerre s'appelle la bataille de Kursk, a eu lieu pendant les mois de juillet et août. La bataille a commencé avec le lancement d'une offensive depuis l'Allemagne appelée Opération Citadelle le 5 juillet. L'Union soviétique a répondu avec l'opération Kutuzov le même jour. La bataille était gagnée par l'Union soviétique. Musique. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 4 juillet 1946. Les Philippines ont devenu indépendantes des États-Unis. Les premiers Européens à venir aux îles Philippines étaient un groupe de marins espagnols sous Ferdinand Magellan en 1521. Depuis ce moment-là, les Philippines sont devenues une colonie espagnole pendant 3 siècles. La résistance croissante du peuple philippin affaiblit la puissance espagnole. Dans le même temps, l'Espagne a également perdu la guerre contre les États-Unis. Le peuple philippin a ensuite poursuivi la lutte pour expulser les troupes américaines de leur patrie. Les Philippines ont alors déclaré le 12 juin 1989 comme jour de leur indépendance. Mais les Philippines n'ont pas réussi à obtenir la reconnaissance internationale de leur indépendance, y compris spécifiquement les États-Unis et l'Espagne. Le gouvernement espagnol a ensuite cédé les îles Philippines aux États-Unis dans le traité de Paris de 1898. Le gouvernement révolutionnaire des Philippines n'a pas reconnu l'accord. Le peuple philippin a ensuite poursuivi la lutte pour expulser les troupes américaines de leur patrie. Les Philippines viennent d'être devenues véritablement souveraines le 4 juillet 1946 des États-Unis, conformément à la loi sur l'indépendance des Philippines, ou mieux connue sous le nom de loi Taiding McDuffie. Le président Harry S. Truman a publié la proclamation de 1695 le 4 juillet 1946, reconnaissant officiellement l'indépendance des Philippines. C'est Jurita, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Hey dia, tengok kita. Hey dia, celing mata. Senyum lagi, amboy nona manis sekali. Hey dia tengok kita, hey dia jeling mata. Aduh mas senyum lagi, amboy nona manis sekali. Dia mengernyit, amboy ma aku dicubit. Siapa dia, oh putri remaja. Hey dia malu-malu, di balik selendang yang biru. Hey dia senyum padaku, itulah gadis impianku.
C'était la première chanson indonésienne pour ce soir. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, d'Indonésie au monde. Et voici donc mon Indonésie.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici mon Indonésie ayant pour le titre « Ministère de l'Environnement et des Forêts souligne la nécessité de construire une industrialisation de la gestion des déchets ». Le directeur de la gestion des déchets au ministère de l'Environnement et des Forêts, KLHK, Nofrizal Tahar, a déclaré mardi 2 juillet 2024 que l'industrialisation de la gestion des déchets est l'une des mesures à prendre pour pour soutenir les efforts de gestion des déchets en Indonésie. Selon lui, la gestion des déchets ne peut pas se faire de manière négligente, mais nécessite une gestion sérieuse. Il a notamment demandé aux responsables des gouvernements des résidences et des villes en tant que régulateurs de ne plus être directement impliqués dans la collecte et le transport des déchets, mais de les confier à des professionnels ayant la capacité de gérer les déchets. Concernant l'industrialisation de la gestion des déchets, selon les principes de l'économie circulaire, il fait référence à l'utilisation de la technologie pour utiliser les déchets afin qu'ils ne finissent pas mélangés dans les déchets, comme par exemple en les utilisant pour l'énergie et les matières premières industrielles. Selon lui, la gestion des déchets en Indonésie présente un potentiel inexploité. Nov Rizal a donné un exemple de la façon dont l'industrie indonésienne de l'alimentation animale continue d'emporter des abats comme matière première. En fait, a-t-il déclaré, la gestion des déchets utilisant la technologie des asticots pour décomposer les déchets organiques pourra contribuer à remplacer les composants alimentaires qui sont actuellement encore emportés. En dehors de cela, Nov Rizal a également souligné le potentiel de la transformation des déchets en énergie lancée dans des villes ainsi que la gestion des déchets utilisant la technologie des combustibles dérivés des déchets RDF qui traite les déchets inorganiques comme carburant alternatif dans diverses industries. Concernant spécifiquement RDF, il a déclaré qu'en Indonésie compte déjà des acheteurs et des utilisateurs potentiels, y compris l'industrie du ciment répartie dans 31 villes et régions de 15 provinces et des centrales électriques à vapeur ou PLTU dans 47 villes et régions de 26 provinces. D'autres acheteurs potentiels de RDF sont l'industrie des engrais dans 7 villes et régions de 5 provinces, l'industrie du papier et de la pâte à papier dans 31 villes et régions de 7 provinces et l'industrie textile dans 34 villes et régions de 3 provinces. C'est Juritak, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Voilà, c'était la deuxième chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Changez les tard, maintenant nous allons présenter le magazine culturel.
C'est le retard, si vous êtes en voyage dans le sud de Sulawesi, essayez de visiter le village touristique de Baliangin. Le village touristique de Baliangin est l'un des villages touristiques répertoriés dans les 50 meilleurs villages touristiques indonésiens ou ADWI 2024. ADWI est un événement permettant de décerner des prix aux villages touristiques sur la base des critères d'évaluation du ministère indonésien du tourisme et de l'économie créative. Le village touristique de Baliangin est souvent considéré comme un joyau caché qui offre une expérience touristique unique et enchanteresse dans le sud de Sulawesi. L'une de ses caractéristiques uniques est qu'elle possède le deuxième plus grand paysage karstique après la Chine du Sud. Le village touristique de Baliangin est situé dans le district de Balochi, la région de Pangkajene et des îles. Depuis le centre-ville de Pangkajene, il est accessible en 1h et 30 minutes environ. Le village touristique de Baliangin est situé dans un nama karstique. Il possède donc de nombreuses attractions touristiques telles que Taman Batu ou Parc du Rocher, vieux de 5 à 15 millions d'années. Dans les environs, vous pourrez faire de la randonnée et prendre des selfies avec le paysage rocheux karstique unique. C'est également la peinture ancienne la plus ancienne du monde, estimée à 45 500 ans, et elle est un témoin de l'ancienne civilisation humaine. La peinture offre une compréhension profonde de la vie et de l'art des humains préhistoriques. Baliangin possède également de nombreuses cascades. Vous pourrez visiter les cascades pour profiter de la fraîcheur de l'eau et de sa fraîcheur naturelle. Vous pouvez également longer la rivière Batangi avec une activité de tubing. L'étendue des rizières et les rivières qui coulent sont l'une des principales attractions pour profiter de l'atmosphère rurale de ce village. Vous pouvez profiter du magnifique paysage du village en l'explorant en VTT. Pour y passer la nuit, ne vous inquiétez pas, il y a Zuru Park ou Kafon Resort. Si vous y passez la nuit, vous bénéficierez d'un hébergement de qualité avec une touche nature confortable. C'est Rita, c'est le magazine culturel pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt!
Segala harapan rembulan menahi semalam.
Serge Littard, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Et comment? Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Bonne écoute.
Bonjour, bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique l'Indonésie en couleur. Cette fois, nous allons vous présenter Indofest 2024. Le Festival Indonésien du plein air, ou Indofest 2024, organise de nouveau à Jakarta la plus grande exposition d'équipements de plein air et d'aventure d'Asie du Sud-Est, a lieu du 4 au 7 juillet 2024 à Jakarta Convention Center, précisément dans le Hall B. Indofest 2024 est animé par des centaines de marques connues de divers produits d'équipement de plein air, vêtements, d'aventure, matériel de camping et des vélos. Cette année, le thème est Indofest l'égalité verte, action et responsabilité avec le slogan « Plus d'extérieur, moins de déchets ». Avec ce thème, on espère que toutes les parties qui s'aventurent dans la nature pourront préserver la nature. En plus du shopping, il existe de nombreuses activités auxquelles vous pouvez participer de l'intérieur à l'extérieur à Indofest 2024. En venant ici, vous pourrez apprendre à faire des activités de plein air. Donc, pour ceux d'entre vous qui débutent, ne vous inquiétez pas. Il existe de nombreux ateliers et démonstrations sur ce qui est nécessaire pour pratiquer des activités dans la nature, comme par exemple apprendre les techniques de navigation terrestre avec une boussole et une carte, ou apprendre à cuisiner dans la nature avec un minimum de matériel de camping. Dans l'espace extérieur, vous pourrez vous essayer à l'escalade miniature ou ressentir la sensation d'une aventure en réalité virtuelle. Ce qui est toujours très attendu, cette exposition propose également des performances musicales. Certains d'entre eux sont des idoles des amateurs d'activités de plein air. Cette année, Indofest 2024 devait attirer 50 000 visiteurs. Chers amis, c'était la rubrique l'Indonésie en couleur de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Merci à tous, à bientôt.
La Voix de l'Indonésie, la diffusion à l'étranger de Radio République Indonésie, présente des émissions dans nos services linguistiques anglais, français, allemand, néerlandais, espagnol, arabe, mandarin, japonais et indonésien. Cette émission radiophonique est diffusée via SW 3325 kHz et 4755 kHz et en streaming sur www.voinews et en streaming sur www.voinews.id et RRI numérique. Nous vous présentons divers programmes Charme de l'Indonésie, l'Indonésie en couleur, parlons indonésien, divertissement de musique pop indonésienne, régionale et la chanson au rythme kroncong, ainsi que des actualités et des informations sur l'Indonésie et l'étranger. La Voix de l'Indonésie au monde.
Chers auditeurs, c'était l'autre belle chanson indonésienne. Et vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Et maintenant, nous continuons notre programme avec le magazine musical.
Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour le magazine musical. Et cette fois, nous vous présentons une chanson intitulée Cintaku de la légendaire chanteur indonésien Krisha. Ce chanteur Cintaku a un arrangement de musique pop optimiste et joyeux avec des paroles poétiques. Cette chanson, créée par Eros Djarot et Debbie Nasution, décrit le sentiment de tomber amoureux et à quel point ce sentiment est agréable. La chanson Cintaku figure sur l'album Badai Pasti Berlalu, sorti en 1977. Cet album est devenu un chef d'œuvre ainsi qu'un album légendaire et a été classé numéro 1 sur la liste des 150 meilleurs albums indonésiens par le magazine indonésien Rolling Stones. En décembre 2007, les chansons de cet album qui sont devenues des chansons intemporelles incluent Badai Pasti Berlalu, Serasa Semusim, Merpati Putih et Cintaku. Bon, chers auditeurs, voici la chanson de Krisha intitulée Cintaku. Bonne écoute.
Yeah. betapa nikmatnya ujungmu asmara bagai embun pagi yang menyentuh rerumputan. Cinta akan ku berikan bagi hatimu yang damai. Cintaku gelora asmara seindah lembayung senja. Tiada ada yang kuasa melebihi indahnya nikmat bercinta.
Bonjour Jetar, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter @voindonesia et d'Instagram @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook de Voice of Indonesia et regardez sur notre YouTube Voice Indonesia. Pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.